Bonjour à tous, bienvenue, bonjour les devs, j'avais oublié, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, un épisode de news, on est fin avril, mais on est encore en avril, donc voilà, et comme d'habitude, bah, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Petit épisode de news, effectivement on va parler de PHP, de Laravel, d'extension PHP, évidemment d'IA avec du Firecrawl de Firebase qui vient avec des nouvelles features, Google qui va peut-être sanctionner du SEO, des choses comme ça. On va parler tout ça dans cet épisode.
Ouais, c'est parti. On remercie quand même, attends, avant de commencer, on va remercier les sponsors, comme d'habitude. Donc, on remercie toutes les personnes qui contribuent au podcast. J'ai vu qu'il y en avait un qui avait arrêté il n'y a pas longtemps, il y a une semaine ou deux. On le remercie de nous avoir soutenus jusqu'au mois d'avril. Là. Donc, merci beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas, hein, vous pouvez contribuer, arrêter, etc. Il n'y a pas de problème. On vous remercie de toute façon de contribuer.
Et pour le coup, ouais. C'est hyper simple. Voilà, ne vous sentez pas bloqué. Vous faites comme vous voulez. Et un autre moyen aussi de nous soutenir, en fait, c'est de mettre un petit pouce, une étoile sur votre application de podcast ou de parler du podcast à vos collègues sur le plateau dev. Ça peut être toujours. Ça nous aide et ça nous fait extrêmement plaisir. Un petit commentaire, on fait tout pour réagir et pour répondre à vos questions. Yep. On attaque, Patrick ?
Yeah, c'est parti.
On commence tout de suite par l'univers PHP qui vient avec des extensions. Alors là, pour le coup, n'étant pas complètement qualifié pour ça, il va falloir que tu nous expliques l'usage de ces extensions PHP.
En fait, sur PHP, tu as déjà des extensions que tu vas rajouter. C'est des extensions qui sont écrites en C, je crois, la plupart du temps. Truc natif, donc ça fait hyper longtemps que ça existe. Et là, il y a un nouveau système qui est en train de se développer, qui s'appelle PIE, qui sera géré de façon beaucoup plus simple. En fait, tu vas installer une librairie sur ton ordi et tu vas pouvoir, ou sur ton serveur, hein, Linux, n'importe quoi. Et alors, si tu descends un petit peu sur la page, tu verras. Et après, via une ligne de commande, tu vas pouvoir ajouter ou retirer des extensions juste avec une ligne de commande. Donc, ce sera beaucoup plus simple que la méthode actuelle. Donc, c'est un truc qui est en phase de développement. Et donc, ils devraient, je sais pas quand ils vont sortir ça, mais tu vois, après, tu fais pi install, pi uninstall, etc. Et ensuite, t'as toute une librairie sur Packagist d'extensions disponibles, pour augmenter PHP avec des librairies, tout ça. Donc, comme la plupart du temps, alors, j'essaie de pas dire de conneries, mais la plupart du temps, elles sont écrites en C, en fait, les extensions de, après, il y a peut-être d'autres langages aussi qui sont compatibles. Donc, c'est beaucoup plus performant, si tu veux, vu que c'est une extension intégrée nativement au PHP quand tu la rajoutes. Donc, c'est plus performant que si tu rajoutais une librairie PHP. Donc, c'est pour ça qu'on passe par des extensions, des fois. Donc, c'est un nouveau système.
OK.
Et c'est grâce à, j'ai regardé vite fait hier soir la vidéo de Johan Dev qui fait le mercredi, il fait une vidéo où il parle d'articles et c'est lui qui m'a fait découvrir ça, donc je rends à César. Merci Johan pour la découverte de cette page.
Excellent. Ok.
Je sais qu'il nous écoute en plus, je sais qu'il nous regarde.
Ça marche. Ok. On déroule sur le sujet suivant. On parle de Chrome qui fait un peu machine arrière sur les cookies.
Ah, Google qui fait machine arrière, ça c'est assez classique. Pour dire qu'il ne tue pas un projet encore. Mais bon. Non, ça fait plusieurs. Alors la plupart des navigateurs ont supprimé les cookies tiers ou en tout cas les ont bloqués. Chrome était le seul encore à laisser les cookies tiers, mais on sait très bien pourquoi, hein, de toute façon. Et ils ont essayé de lancer des projets. Ça fait 5 ans qu'ils lancent des trucs, qu'ils abandonnent, machin, tout ça. Là, ils avaient quasiment trouvé, soi-disant, un truc, avec un nouveau système. Et finalement, non. Là, c'est définitivement abandonné. Donc Chrome aura toujours les cookies tiers et ça sera jamais supprimé. Quoi.
Bah, en même temps, il y a trop d'argent, il y a trop de business derrière, quoi.
Oui, pour Google, de toute façon, oui, avec la pub, tout ça. Après, ils ont certainement d'autres systèmes maintenant, ils sont tellement malins. Puis comme c'est Chrome, c'est leur système, il y a certainement des mécanismes internes dont on n'a pas conscience, en fait. Mais bon, voilà.
OK. Bon, Rien de nouveau sous le soleil pour Google, quoi.
Ouais, de toute façon, en tant que dev, on utilise toujours des navigateurs qui bloquent tout, donc ouais, on n'a pas de problème, de toute façon.
Allez, pareil, toujours dans le même délire, on reste dans l'écosystème Google Chrome avec l'acteur OpenAI qui dit que peut-être un rachat ou c'est quoi exactement
En fait, tu sais, aux États-Unis, Google, ils ont un problème de position dominante d'après le gouvernement, et donc ils essaient de démanteler. Et potentiellement, en fait, ça a déjà été demandé qu'ils vendent en fait Chrome, la partie Chrome, voilà, navigateur, pour voilà éviter cette position dominante. Et ChatGPT, enfin OpenAI, s'est dit intéressé pour acheter Chrome en cas où Google était obligé de le vendre. Donc c'est bien, ils ont bien dit, si jamais Google est obligé de le vendre, bah nous, ça nous intéresse éventuellement. On va peut-être le racheter. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Moi, ça m'inquiète un petit peu personnellement, parce que je me dis, déjà Google, c'est pas non plus génial, mais si demain c'est OpenAI, je sais pas ce qui va advenir de Chrome dans le futur, puisque Chrome quand même, c'est malgré ce qu'on peut dire, c'est quand même quelque chose qui a fait évoluer le web, ça a standardisé un peu plus, etc. Il y a l'équipe de Chrome qui travaille beaucoup dessus. Qu'est-ce qui va devenir l'équipe de Chrome, tu vois, Adi Osmani, tout ça, enfin tous ces gens qui œuvrent en fait pour le web. Est-ce que OpenAI va investir dessus? Ou est-ce qu'ils vont le détourner pour intégrer de l'IA et avoir encore plus de data? Tu vois, c'est quand même inquiétant, puisqu'aujourd'hui, il est quand même très présent et voilà, sur le marché, quoi.
Toute la télémétrie qui récupère, tout, bien sûr. Vrai sujet. Est-ce que ça ira jusqu'au bout? Là, pour le coup, la balle n'est même pas chez nous. Ça va se jouer aux US, quoi, clairement.
Ouais. Donc voilà, à suivre, mais inquiétant, quoi.
Allez, ça va rajouter du boulot à tous les DevOps qui n'ont pas encore automatisé ce process. Le certificat donc SSL TLS, donc qui vient en fait sécuriser les connexions avec le serveur avec des certificats, tout simplement va réduire en fait en temps, et donc on sera obligé de les renouveler plus fréquemment. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a pas trop choqué. J'ai dit OK, on s'en fout, quoi. Et toi, tu me disais en fait, pas tant que ça. En fait, ça peut avoir un impact assez fort, en fait.
Non, mais en fait, pour nous, ça va, quoi. Généralement, c'est automatisé, les hébergements, où on utilise des systèmes qui renouvellent automatiquement. Surtout qu'on utilise du Let's Encrypt, donc la plupart du temps, ça se renouvelle, tout ça, on n'a pas de problème. Mais c'est vrai que je pense pour des boîtes qui ont plein de sites avec des validations, des intranets, des machins, tout ça, où il y a beaucoup de sécurité, ça peut devenir problématique, en fait, de devoir, donc en 2029, tous les 47 jours, renouveler tous leurs certificats. Bon, ils vont automatiser, et puis ils ont le temps d'ici 2029, mais voilà. Et ça a été acté, c'est défini. Ils ont défini et c'est acté. En 2029, le certificat va durer 47 jours. Donc tous les 47 jours, on renouvelle le certificat.
Bon, et sinon, il y a plein de solutions pour automatiser ça facilement, et on fait ça une fois, et puis terminé, quoi. On est d'accord?
Ouais, après, je sais pas. Après, je pense que pour nous, c'est facile, mais pour certaines boîtes, il faudrait demander. Alors, si vous êtes DevOps dans une boîte où c'est hyper compliqué à chaque fois que vous changez le certificat, mettez-nous un commentaire, ça m'intéresse, parce que je sais que certaines boîtes, ça peut être compliqué avec des systèmes de sécurité, tout ça. Des fois, d'ailleurs, la preuve, des fois, on voit des gens qui oublient de renouveler le certificat. Tu vas sur un site super connu et là, t'as une erreur SSL, machin, sécurité. Donc, comme quoi, c'est pas si automatique et si simple, des fois, dans des grosses boîtes.
Ok. Culture. Allez, on reste dans l'univers Google avec un titre un peu racoleur ou clickbait, on va dire. Google, les textes qui sont générés par l'IA vont être désormais sanctionnés. Clairement, quand on lit l'article, est-ce que c'est vraiment le cas, ou il faudra être un peu plus subtil quant à l'utilisation de l'IA
faut vraiment lire le truc, parce que alors là on est plus sur du SEO que du dev, mais c'est quand même intéressant. Jusqu'à maintenant, en fait, Google disait qu'il y avait pas il faisait pas de différence entre du texte généré par IA ou pas. D'ailleurs, on avait fait un épisode SEO où Dan nous avait confirmé que du moment que le texte est de qualité, il s'en fout. Et en fait, là, sur cet article, apparemment, ça a été révélé que finalement, si, parce que, mais attention, c'est uniquement dans le cas où tu vas prendre un contenu sur un autre site que tu vas le faire, tu vas le transformer ou le résumer ou etc. et le mettre sur ton site. En gros, et à partir de là, si tu fais ça, tu vas, tu prends un texte, tu le modifies un petit peu avec l'IA, et tu dis réécris-moi un peu le texte, tu le recolles sur ton site. Là, il va dire, là, c'est du duplicate, parce qu'en fait, il va détecter que bah, c'est le même contenu, sauf qu'il a été reformulé, et voilà. Et en fait, ça te sanctionne en tant que contenu dupliqué. Donc là, oui, t'as une sanction. Mais en gros, ça veut dire que si toi, tu écris du texte toi-même, en te faisant aider un petit peu de ce ChatGPT, là, non, il n'y a pas de problème. C'est du texte que t'as fait toi, etc. Donc, voilà, c'est...
Ouais, en fait, ça va. On peut continuer à utiliser le copywriting IA à encore des années devant lui, quoi. On est bon.
Ouais. Mais c'est juste, en fait, il vise principalement des gens qui, tu sais, il y a des personnes qui génèrent des sites automatiquement avec l'IA, donc
ouais, qui font une sorte de plagiat en fait, où ils aspirent un site, ils le dupliquent, ils le repassent dans la moulinette, et puis
voilà. Okay. Donc par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils arrivent à détecter que c'est un contenu généré par IA. Donc là, ils expliquent un petit peu dans l'article, mais ça doit pas être simple quand même, je pense.
Ils doivent utiliser une IA qu'ils ont entraînée pour détecter si c'est une IA. Et... Ok.
Ouais, c'est pas simple, il y aura des faux positifs ou des trucs comme ça, à mon avis.
C'est un peu Inception. Allez, on rebascule dans l'univers un peu plus dev de notre métier. Pour tous les développeurs qui font du JS, souvent ils sont passés sur du TS, TypeScript, et donc souvent, on va dire, l'acteur le plus majeur sur la validation. En fait, des types pour c'est une librairie qui s'appelle Zod. Zod passe en version 4 bêta. Alors, qu'est-ce que ça amène sur le papier? Clairement, c'est déjà une version majeure, donc il y a vraiment quelque chose de plus solide. Souvent, c'est de la rapidité, de l'efficience sur le parsing, sur toutes ces infos-là. Par contre, moi, ce qui m'intéressait, c'était un gros reproche qui avait été fait à Zod. Justement, c'était la taille, en fait, de cette librairie qui peut devenir, en fait, très, très vite assez grosse. Et là, en fait, ils sortent une version, en fait, mini, qui peut largement suffire parfois quand on n'a que des objets, on va dire, un type assez simple, basique, sans avoir des validations très, très complexes. Parce que avec Zod, on peut aller sur des validations très, 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 très complexes, aussi bien à mettre en place, ça va être complexe, mais aussi sur le poids, tout de suite, ça va exploser le bundle, alors qu'objectivement, on va se servir que 3 ou de 4 propriétés. Mmh. Et là, ils viennent avec une version un petit peu plus light qui s'appelle Mini et qui permet en fait de faire le job. Donc, on va dire que c'est une évolution classique, un peu dans l'air du temps. On augmente la performance, on vient réduire la taille du bundle et on fait une version un peu light qui nous permet en fait de répondre à 80% du job quand on a besoin, quoi.
Là, on voit, tu vois, le poids, c'est passé dessus il y a 2 secondes. On est passé de la version 3 de 12 kilobytes à 5 kilobytes. En gzip, hein, donc c'est beaucoup plus lourd si c'est pas gzipé. Et la mini, c'est mini, quoi, 1,88 kilobytes. Et il y avait aussi, en-delà du poids, il y avait aussi une question de performance aussi qui était reprochée. Oui. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de performance jusqu'à 7 fois sur les objets, machin, je sais pas quoi. C'est assez, ils ont tout augmenté, quoi. Enfin, amélioré. Ouais.
Après, en fait, ils ont pointé... vraiment les vrais problèmes et après ils ont essayé de les résoudre. Par contre, je suis toujours un peu pas sceptique et pas parano, mais en fait sur les benchmarks, en fait il y a aussi une course à l'armement sur les benchmarks et donc en fait il faut regarder comment est effectué le benchmark pour voir après est-ce que c'est 7, est-ce que c'est 6.2, est-ce que certains contextes sur telle machine, tout, voilà, de manière générale, ok, on prend un peu plus de distance, ok, il est quand même beaucoup plus rapide, il est plus petit, et voilà. Donc, pour le coup, voilà, le pari est déjà gagné, et il y a même un guide de migration.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il y a des breaking changes ou pas?
Alors,
est-ce que tu passes de 3 à 4 et pff, ça marche nickel?
J'ai peur que, en fait, que non. Ah. En
message fait, et erreur, déjà ça a changé ça.
Exactement. En fait, sur un exemple en fait où ils disent ok, il y a une dépréciation sur la customisation des erreurs sur la version 4, on met le message erreur, alors que sur la version 3, on mettait juste message. Et donc, c'est un peu moins explicite. Et pour le coup, il y a une page de doc qui est plutôt bien faite. La doc était déjà bien faite, mais pour le coup, là, sur la version 4 qui est en bêta, je le rappelle, ils viennent en fait mettre une page de migration qui nous aide justement en fait, à dire « Ok, ça, avant, c'était comme ça. Maintenant, c'est comme ça. » Voilà, potentiellement, il y a quand même un peu de wording à faire. Je pense pas que ça soit inodore incolore, je mets la V4 et puis chaka boom ça passe. Je pense qu'il y a un petit peu plus de taf à faire. Après je pense que même si elle est en bêta, si on implémente aujourd'hui un nouveau projet, autant partir directement sur la V4, ça me paraît pertinent quoi.
Ouais, le temps que ça, tu finisses ça sera sorti quoi.
Exactement. Ouais. Donc,
après, c'est pas ouf, hein. Il n'y a pas 50 000 choses qui ont changé. Est-ce qu'ils ont, pas sorti un code mode là, pour chercher à remplacer automatiquement la migration
Non, alors pour le coup, j'ai pas trouvé ça.
Ça serait marqué en haut s'il y en avait un, je pense.
Je pense la plupart du temps, maintenant, quand c'est mis en place ce genre de système. Voilà, c'est quand même...
Après, de chercher à remplacer, ça va vite. Hein.
quand tu as une base de données avec... Enfin, quand tu as une code base, pardon, de milliers de endpoints ou de validations ou de tout ça, bon, là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense que ça vaut le coup de le faire sur des projets moyens. Voilà, on prend le temps de faire cette migration. Ça peut nous amener quand même... des gains en performance et aujourd'hui on sait que c'est toujours important.
Ouais.
Yes. Carrément. Allez, on passe sur Redwood.js qui en fait c'est fini Redwood.js ou quoi ?
C'est fini. Voilà, Redwood.js. On en avait parlé avec Simon qu'on avait eu en invité, il y a un petit moment quand même, qui était dans la core team Redwood.js. Et donc Redwood.js c'était un framework React qui embarquait un peu tout Prisma, enfin tout l'écosystème qui te permettait de faire une application assez rapidement. Tu avais tous les outils qui étaient branchés déjà, machin. Tu avais les lignes de commande qui te généraient des CRUD et tout ça. Enfin, c'était vraiment pas mal.
Ils voulaient un petit peu le Ruby and Rails de la stack un peu moderne avec du Prisma, du React, mais dans l'écosystème JS. Voilà, c'était vraiment leur modèle, c'était Ruby and Rails ou Laravel ou des choses comme ça. Mais là, pourquoi c'est fini ? Pourquoi c'est...
Je pense que ça n'a pas pris non plus des masses, malgré l'investissement quand même assez conséquent, je pense. Je sais plus comment il s'appelle le mec cofondateur
de GitHub là.
Ouais, le mec de GitHub là.
Ouais, Thomas, Tom, Tom, je sais pas quoi.
Presse. Ouais, enfin voilà. Tom. Lui. Tom. Et il dit aussi qu'à un moment donné, ils en avaient marre d'être obligés de maintenir des librairies externes comme Prisma. Enfin, je sais pas comment, tu sais, l'intégration, ils doivent maintenir que ce soit bien intégré. Bah par exemple, tu vois Zod, s'ils ont Zod, V4, il va falloir faire la migration dans le.
Et ouais. Etc. Mais parce que Ouais, en fait, c'est eux qui faisaient l'agrégation de toute cette librairie et ils étaient dépendants en fait de plein d'acteurs tiers et donc ils passaient plus de temps à intégrer les mises à jour. Ouais, enfin, je peux comprendre. Ouais.
Donc voilà. Donc ils ont définitivement. Alors, ils passent sur un nouveau système qui s'appelle Redwood SDK, qui est un système. Alors, ça reprend les meilleures choses de Redwood. Tout en React, machin, tout ça. Et étonnamment, c'est fait pour fonctionner avec Cloudflare. Donc
ouais. Moi je suis
Cloudflare.
C'est ouf. Moi, je suis complètement hypé par ça. Alors, pas par Redwood SDK, je m'excuse, mais par le déploiement Cloudflare.
Ouais.
Pour un projet là, sur lequel je suis en train de faire un devis et tout, j'aurais bien envie de passer sur Cloudflare. Et surtout, en fait, avec Nuxt et Nuxt Hub, en fait, qui est une surcouche au-dessus, qui, pour le coup, en fait, a facilité tout le déploiement. Tu fais un Nuxt deploy et ça va automatiquement sur Cloudflare. Tu payes quasi pas grand-chose et c'est répliqué partout. C'est du SSR, c'est tout ça. Donc, ça me parle totalement. Et le fait que Redwood bascule un petit peu sur ce fonctionnement, ouais, moi je comprends totalement. Pour limiter au maximum la friction de déploiement, voilà, il n'y a pas de ok, on fait une image Docker machin qu'il faut qu'on build après qu'on mette sur le registry tout. Waouh, là c'est hyper simple et c'est hyper rapide, hyper efficace. C'est pas mal. Excuse-moi pour cette digression, mais Redwood SDK, clairement, est-ce que je vais pouvoir tout faire avec Redwood SDK ou je vais être obligé de mettre une base et ça vient par-dessus, ou je vais pouvoir créer mes applications directement avec Redwood SDK?
Non, alors j'ai pas approfondi et testé, mais normalement tu peux tout faire avec. C'est vraiment, ça te permet de développer une application. Avec les serveurs components, du SSR, etc. Donc, c'est basé sur Vite. Et après, ça se connecte facilement à tout ce qui est database, Cloudflare, les R1, tout ça, machin. Ouais. Donc, voilà, c'est le storage. Enfin, c'est tout est, voilà, tout s'interconnecte facilement. Alors, j'ai pas trouvé encore pourquoi ils se sont maqués avec Cloudflare. Est-ce que Cloudflare a mis des sous? Est-ce qu'il a racheté le truc? Je sais pas. Mais, ouais, en tout cas, moi je suis d'accord avec toi, hein, Cloudflare, je suis très, je suis très satisfait. C'est hyper, c'est fluide, ça déploie rapidement, etc. J'ai des clients qui bossent avec, donc c'est vraiment top. Voilà, donc à tester, mais c'est
est-ce
bien,
qu'on
quoi,
pourrait dire exactement. Mais est-ce qu'on pourrait dire que Redwood SDK en fait, c'est un peu la même chose que, alors c'est pas, je vais me faire insulter quand je vais dire ça, mais c'est une autre alternative plutôt à Remix.
Ouais, c'est un peu le même. Ouais, c'est un peu le même délire.
À TenStack ou des choses comme ça, quoi. Ça,
ouais, c'est ça.
Ok. D'accord.
C'est ça, on est dans le même truc que Remix ou TenStack, là, Starter, là, qui sort. D'ailleurs, j'ai oublié de le mettre dans les news, tu vois. Okay. Mais ouais, c'est pas mal, Redwood SDK. Je pense qu'en plus, ils ont une bonne expérience du framework. Voilà, des années qu'ils ont passées sur le framework. Donc, je pense que c'est un bon système. Je n'ai pas testé, mais voilà, ça peut être intéressant. C'est une alternative intéressante à Next.js. Et ouais, tu parlais de TenStack Starter, là. J'ai pas mis dans les news, mais voilà, c'est une alternative aussi à Next.js, enfin, de ce qui se dit. Par contre, moi, personnellement, j'ai regardé vite fait le code, tout ça. Et j'ai trouvé ça, hyper complexe, la doc, tout ça. Comment mettre en place l'application? J'ai vu des fichiers routeurs, machin, tout ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? On te vend ça comme alternative à Next.js, et qu'en fait, quand tu vas dans la doc, mais c'est vachement complexe, quoi. Donc, ouais, je suis pas convaincu encore. Je pense que
rappelle-toi, il faut être ingénieur. Les ingénieurs font des choses compliquées. Donc, ouais, si c'est trop simple, c'est pas bien, tu vois. C'est nul, c'est nul.
Oui, non, c'est vrai que...
Je troll un peu, mais c'est ça. Et ça m'attriste le culte de cette... complexité en fait, alors que ouais, la simplicité, les trucs faciles à utiliser pour nous les devs, et qui gardent en fait un niveau de performance final pour le client final largement acceptable, bah vas-y, ouais. Simple quoi, vas-y, on fait quoi.
Bah ouais.
Yes. Allez, on bascule sur une petite, alors je sais pas si c'est une petite révolution, mais en tout cas c'est juste magnifique.
C'était une révolution.
Exactement. c'est la version 4, en fait, de Anim.js, qui est annoncée par son créateur qui vit à Paris. Julien, qui après donc il annonce en fait son sur un post sur Twitter justement la version 4 et qui vient aussi et surtout avec un site internet mais de ma boule quoi.
Ouais,
c'est juste extra. C'est juste magnifique. Tu passes du temps à scroller, à regarder. À regarder tout ça juste pour le plaisir de scroller tu y vas on vous invite vraiment à aller voir ce site parce que c'est juste ouf. Évidemment je pense que tout a été fait avec AnimeJS, c'est normal vu que c'est le site de la présentation mais ouais j'espère, mais en tout cas c'est super super classe.
Ouais, c'est
super. Et tout est expliqué évidemment.
Et surtout il est moi quand j'ai vu le tweet, j'ai ouvert sur le mobile et sur mobile il marche aussi bien que sur desktop hein. Donc c'est ça qui est ouf en fait.
Donc les animation full responsive, tout, c'est énorme, c'est hallucinant. Et moi là où je suis hyper hypé par ce projet, c'est que il annonce en fait faire une formation en fait sur comment il a utilisé AnimeJS et justement faire une formation ou vendre une formation sur l'utilisation de comment l'utiliser, comment comprendre tout. Et ça me paraît super intéressant parce que mine de rien en fait c'est assez complexe toutes ces animations. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la série animation qu'on a faite il y a 2 ans je crois sur les animations en CSS, les animations en JS et les animations en 3D, on avait même reçu Simon Bruno qui est la on va dire la rockstar de TriJS qui est qui est la librairie de 3D. Voilà, on avait fait toute une série sur les animations dans le web. On vous invite à aller la voir. On parle vraiment des fondamentaux. On va dire c'est une série qui est un peu intemporelle. Et donc là, bah, AnimeJS qui passe en version 4. Ça a l'air super cool en tout cas.
Ouais, et puis je crois qu'elle est pas très lourde en fait comme librairie. Hein.
C'est souvent un reproche qui avait été fait on va dire aux pionniers de l'animation sur le web, c'était GSAP. Souvent c'était, ça venait plomber le site parce que c'était hyper lourd. Évidemment, derrière est né plein de librairies, AnimeJS ou Motion, Framer Motion et tout ça, qui ont mis l'accent vraiment sur la perf, sur le poids. Et aujourd'hui, c'est un peu la guerre à ça, parce que on va dire le client final veut des animations, quelque chose de qui bouge, où il y a de la vie dans le site. Néanmoins, si la perf est complètement pourrie, c'est pas bon non plus quoi. Donc trouver le juste milieu est toujours intéressant. Après, avec toutes les techniques de tree shaking, tout ça, voilà, c'est quand même vachement.
Après, ils ont, l'évolution des navigateurs et du CSS en particulier a fait que les librairies d'animation se sont vachement allégées parce que ils profitent en fait des translates et tout ça. Enfin, quand tu regardes le code maintenant de GZAP ou des trucs comme ça, moi j'ai utilisé Motion dernièrement. Tu vois qu'ils utilisent beaucoup de CSS pour les mouvements et tout ça, translate et tout ça. Donc ça s'est beaucoup amélioré grâce à ça et en plus c'est plus fluide et ça fait moins tourner le navigateur. Donc GZAP c'est beaucoup allégé hein, au fil des années.
Carrément. Yes. Allez, on passe sur la suite. Un nouveau runtime encore.
Encore
oui et non.
Ah, je me barre là.
Ouais. Alors, ouais, c'est bon. on a vu en fait Deno, on a vu Bun apparaître. Là, en fait, pourquoi en fait refaire un nouveau runtime? En fait, l'idée, c'est plus de l'intégrer dans n'importe quel projet. Et écosystème et pourquoi pas et comme il l'annonce en fait de le mettre directement dans les parties un peu mobiles pour pouvoir en fait intégrer ça directement dans les parties mobiles. Alors comment ils vont intégrer ça, J'avoue, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de voir que, OK, ils sont en train de bosser dessus. Et il y a quelque chose qui est en train de se faire sur l'intégration d'un écosystème JS, d'un runtime JS qu'on pourra exécuter sur le mobile. OK, intéressant à voir comment ça évolue. Est-ce que va y avoir de la suite? Ça, j'en sais rien du tout. Par contre, ça me paraît intéressant de garder un œil dessus pour voir. Et on revient en fait sur une discussion qu'on avait eue il y a très 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 longtemps.
Ouais.
Je sais pas si tu te rappelles, où on disait que
non.
En fait les runtime, l'explosion des runtime n'allait pas tellement impacter les devs JS, mais allait plutôt impacter en fait les infrastructures. Et
oui.
et en fait on se rend compte que bah, la migration de NPM ou Node sur un Deno ou sur un Bun, elle n'est pas si compliquée que ça à faire, en fait.
Ouais.
Donc, c'est assez facile. Et donc, toute cette effervescence qu'il y a autour des runtime, elle est hyper bénéfique pour nous, en fait, pour nous devs, et pour parce que bah, c'est que du plus rapide, que du plus facile, tout. Mais je pense que là où c'est vraiment compliqué, c'est pour les l'infrastructure, quoi. Mais bah, pour nous, on a juste le bon côté de la chose. Donc, c'est
Ah,
plutôt sain, quoi. C'est plutôt sain
ouais, ouais.
Et plutôt facile.
C'est vrai. Bah après, je sais pas, enfin les exemples qu'ils donnent sur Bar, là, c'est quoi, c'est Bar JS? Non, comment il s'appelle?
Ouais.
Je sais pas, je vois pas les cas d'usage, en fait, mobile, machin. Je vois pas pourquoi tu, enfin, je comprends pas. Faudrait que je regarde peut-être plus en détail, mais pourquoi à un moment donné, si t'as une application native, tu vas mettre du JS dedans, alors que le natif est normalement plus rapide, enfin, plus, il est
après,
compilé, donc, je sais pas.
Après,
bizarre.
Moi, je vois, c'est par exemple, tu vois, tu veux récupérer de la legacy où tu vas pas tout réécrire, tu vas pas
ouais.
tout refaire, tu vois. Potentiellement, tu vois, tu peux intégrer en fait ta legacy dans ton natif. Pourquoi pas avoir
ouais, ou...
à tester, mais surtout ouais. À regarder. Et perso, moi, je le ferais garder un œil dessus pour voir comment ça évolue et s'ils viennent avec des cas d'usage hyper, hyper
ouais.
intéressants, quoi.
Ok, à suivre. Alors.
Autre point, et là pour le coup, pareil, c'est un projet que j'ai suivi depuis un peu, pas mal d'années. J'étais un peu hypé au départ et j'avais fait un POC avec. C'était une DB qui était propriétaire, qui s'appelait FaunaDB. Et là, ils nous annoncent bah, clairement que c'est la fin, ils arrêtent et ils mettent tout en open source. Et comme ça, bah, pour faire court, c'est un peu démerdez-vous, quoi. Donc, ouais, c'est un peu triste, mais c'est clairement annoncé, quoi. Le service va s'arrêter le 30 mai 2025. Alors, ils ont annoncé ça il y a un petit peu
ouais.
plus longtemps. Hein.
Mais ils avaient quoi? Ils offraient un cloud, un truc comme ça ou
ouais, en fait, c'était hébergé chez eux, ouais. Ouais.
Ok, donc si t'as des trucs hébergés chez eux, il va falloir que tu récupères le truc, tu te fasses ton serveur et tout, ouais, ça va pas être simple.
Non, et en fait, ça nous amène sur des réflexions qu'on a souvent sur le podcast où on se dit sur les choix de techno, quoi. Et en fait,
ouais.
là, c'est un exemple typique. Alors oui, ça a mis peut-être 4 ou 5 ans. Et c'est plus facile quand la boîte, elle se crash tout de suite parce qu'en fait, on sait que bon, bah, elle est pas... Elle a pas réussi à passer le cap, très bien. Sauf que là, en fait, c'est au bout de 5 ans, que ça, ou 5 ou 6 ans, je ne sais plus exactement. Mais potentiellement, le risque, en fait, c'est que bah, toi, tu deviens en fait tributaire de ce prestataire-là. Et donc, bah, si ce prestataire fait faillite ou met la clé sous la porte ou arrête ou vend ou se fait racheter, bah, potentiellement, toi, tu subis ça. Et donc, on revient toujours sur le choix de la techno, le choix de la DB, le choix de notre stack. Elle est hyper, hyper cruciale sur le futur, quoi. Parce que tu
ouais.
signes un pacte avec ton prestataire. Et même si nous, on n'est que prestataire intermédiaire, voilà, nous, on utilise une brique, cette brique fait faillite. Bon, bah, ton client, tu lui expliques. Sauf que ton client, lui, il dit non, mais moi, je m'en fous que ça soit Fauna ou Postgre ou machin. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je veux que ça fonctionne. Et moi, je te paye pour que ça fonctionne. Et donc, faire des choix techno comme ça, faut pas se gourer, quoi. Et donc, c'est pour D'accord. illustrer le propos que parfois, les services ferment. Et ça nous fout dans la merde, pour faire court.
Non, mais c'est clair que c'est jamais évident quand tu fais un... Alors, c'est pour ça qu'il faut faire des choix de techno. Après, l'expérience, tout ça, on arrive à mieux choisir. Et puis, c'est vrai que des acteurs qui sont vraiment en place, c'est souvent plus... Tu prends moins de risques. Parce qu'effectivement, comme tu dis, t'as vendu une app ou n'importe quoi qui tourne là-dessus. Et puis là, ça va fermer. Comment tu vas expliquer à ton client, bah écoute, on doit migrer, ça va te coûter de temps et tout. Et le mec, il va dire, mais moi, je comprends pas, pourquoi c'est obligatoire. Enfin, j'ai pas envie, j'ai pas prévu de budget en plus. Enfin voilà, tu vois, c'est très problématique en fait. Bon après, je sais pas, FonaDB, je sais pas c'était quoi l'innovation, parce que ça, enfin tu vois, le fait qu'ils ferment et qu'ils aient pas intéressé un grand acteur pour les racheter ou quoi que ce soit, c'est que l'offre était peut-être pas si alléchante en fait.
Après, c'était hyper, hyper propriétaire. C'était un espèce de mix GraphQL, SQL, tout. Donc, en fait, tu venais en fait déployer directement. Si tu veux, c'est pour moi, dans le même délire, c'est un peu le délire de Cyril DB, tu vois, où en fait, ils venaient agréger du SQL et du NoSQL et du SQL. Voilà, t'avais un espèce de mix. Moi, je pense qu'ils n'ont pas réussi leur pari, tout simplement.
Ils n'ont pas fait leur exit, on va dire.
Non, ils n'ont pas réussi à peut-être à avoir suffisamment de traction pour avoir un business model viable. Et donc,
c'est vrai qu'on n'entendait pas beaucoup parler aussi. Hein.
Non.
Peut-être que...
ouais.
C'est peut-être ça aussi.
C'est peut-être la hype d'un San Francisco qui s'est effondrée. Ouais. Allez, petite hype ou pas sur Wayfinder, qui est un module ou une extension, une librairie, je ne sais pas, tu vas nous en dire plus, qui nous permet en fait de, ils annoncent ça, de créer un pont entre du TypeScript et du Laravel.
Ouais.
À quoi ça sert et pourquoi c'est intéressant de s'y pencher ?
En fait, tout simplement, ça te génère. Alors, quand tu as un bac Laravel et un front qui utilise Vite, en fait, ça va te générer automatiquement les contrôleurs routeurs de ton application, tes endpoints. Et donc, tu pourras accéder via ton application front à des fonctions qui sont déjà typées pour tes routes, et tu auras les paramètres qui seront typés, si c'est un number, si c'est un string, machin, tout ça. En fait, automatiquement, ça va te générer, typer les routes, tout ça, de ton application.
Okay.
Donc, c'est plutôt pas mal. C'est,
Mais j'ai pas compris. C'est depuis le back, tu vas générer les routes pour ton front, ou c'est depuis ton front, tu vas générer tes routes vers le back?
Ah, imaginons que tu as ton back qui va traiter un formulaire.
Ouais.
Tu vas envoyer des données à ton bac pour le formulaire, et ben automatiquement en front tu vas pouvoir utiliser directement la route qui va récupérer le formulaire. Elle est déjà disponible via une fonction avec les paramètres qui vont bien et tout ça.
Grâce à Wayfinder. Ok.
Voilà. En fait, tu sais, t'as même pas besoin de gérer ce que tu dois envoyer, tout ça, ça le gère tout seul. En fait, tu utilises une fonction qui va automatiquement générer la route avec les paramètres et tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Et surtout, ça se couple très très bien avec Inertia, tu sais, le système qui permet de faire une application Vue, React, machin, en front avec Laravel.
Ouais.
Donc, c'est encore un pont entre les deux qui, ça, de plus en plus, en fait, on a
tout l'écosystème Laravel et devient vraiment ultra puissant, ultra puissant, quoi, ultra puissant. Ouais, belle, super beau. Ok. Amateur de Laravel, je pense que ça peut être super, super intéressant. On parlait tout à l'heure de MongoDB, de NoSQL, de SQL. Et là, il y a un nouvel acteur, on pourrait dire, totalement open source, qui se veut une alternative à MongoDB, mais qui est construit sur Postgre. Donc, ouais. C'est quoi? C'est du NoSQL dans du SQL? C'est quoi ce délire?
Non, non, c'est alors FerDB. Alors je sais pas si c'est nouveau, mais j'en ai entendu à peine. Enfin, j'en ai entendu parler parce que justement l'article, on en parlera juste après là. Ouais, c'est du MongoDB, donc c'est le fonctionnement de MongoDB, mais qui est basé sur Postgre en fait. C'est une couche par-dessus Postgre. C'est voilà. C'est pas comme MongoDB où t'as vraiment un moteur qui uniquement pour MongoDB tout ça. Donc et c'est totalement open source et etc etc. Donc c'est pas mal. Et je l'ai vu passer parce que ils sont en conflit en fait. MongoDB arrêtait pas de les attaquer en leur disant qu'ils ont volé leur système machin, leur techno, etc. Alors que FerDB leur dit non, on n'a pas du tout la même techno, nous on est sur Postgre, ça n'a rien à voir, etc. Donc MongoDB veut les attaquer, etc. Donc c'est alors il faut savoir que MongoDB à la base c'était open source. Et qu'en 2018, ils ont changé les licences. Voilà.
Ça donc, c'est alors. Plus open source.
Étonnant, hein, comme beaucoup d'ailleurs. Oui. Et c'est pour ça que FerDB a vu le jour, puisque on a un système qui est comme MongoDB avec les mêmes fonctions, etc., les mêmes systèmes, enfin les mêmes méthodes.
Les mêmes
en
API,
gros.
Quoi.
Ouais, une sorte de même API, mais qui est voilà, qui est open source et bon, basé sur Postgre, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Okay.
Donc, par contre, c'est quoi ? C'est une extension que tu mets sur ta base Postgre ou c'est vraiment quelque chose à part ?
Bonne question, je n'en sais rien du tout.
Ok, d'accord. Okay. Bon, j'irai voir.
Regarder dans la doc.
J'irai voir. Ok.
Je demande à ChatGPT.
Ouais, mais j'irai voir. Là, pour le
coup. Ah, tu vois, il faut mettre Postgre et ensuite tu mets FerDB en plus. Donc, ça doit. Je pense que c'est une DB qui doit se connecter à ton Postgre si t'en as un, quoi.
Ok, donc en fait, c'est juste un binaire à part qui vient se mettre en parallèle de ton application. Et qui te permet en fait d'utiliser la même syntaxe.
Les systèmes de MongoDB qui sont, ma foi, plutôt flexibles. Hein. Après, c'est du NoSQL. Bon, alors, on va pas débattre sur NoSQL, SQL. Mais après, je sais pas si tu peux facilement, ce serait intéressant de voir si par exemple, tu as un projet qui utilise MongoDB, est-ce que facilement tu peux passer sur FerDB sans changer beaucoup, tu vois, ton code, etc. Je sais pas si ça fonctionne comme ça.
Faire une migration, quoi.
Ouais, et si jamais ça fonctionnait comme ça, tu vois, où tu pourrais migrer de MongoDB à FerDB sans trop changer ton code, ça pourrait être un truc plutôt intéressant.
Et pour le coup,
pour sortir de MongoDB, quoi.
Il y a une page dédiée à ça sur la doc, faire votre migration depuis MongoDB. Et donc, il nous explique tout, comment faire. Donc, ça paraît assez fluide et assez ouais. Facile à tester, évidemment, mais plutôt intéressant. Et puis si c'est open source, après qui y a derrière, qui voilà, intéressant.
Ouais, à voir si ça finit pas comme FunADB, mais
exactement.
Non, là c'est différent parce qu'on est vraiment sur un projet open source, il y aura une communauté, tout ça, enfin il y a déjà une communauté, donc c'est pas de problème,
ça marche. Allez, on passe sur des trucs un peu plus design, stylé, super sympa. Je pense qu'on connaît tous tout l'écosystème de composants ChatCN/UI. Et là, en fait, on vient présenter un site qui nous permet en fait de créer nous-mêmes un thème pour pouvoir en fait venir un peu customiser tous ces composants-là. Et ça a l'air plutôt pas mal.
Ouais, c'est pas mal parce que ça, c'est vraiment, tu peux customiser un thème, changer. En fait, j'avais vu un post, je sais plus sur quoi, sur LinkedIn ou sur Twitter, où il disait ouais, c'est super, ChatCN, tout ça, machin, mais à force, tous les sites se ressemblent, c'est pas possible, quoi.
Oui.
Et donc, il dit ouais, j'ai cet outil, machin, et en fait, cet outil te permet vraiment de customiser à fond ton thème, les couleurs, les typographies, les arrondis ou pas, la taille, enfin voilà, il y a vraiment énormément de trucs. Et donc là, de pouvoir faire ton thème un peu plus personnalisé, tu vois, qui ressemble pas à d'autres sites, voilà. Ouais, t'as vu, top. En plus, c'est excellent.
Ouais, c'est vraiment excellent. Alors, pour ceux qui sont sur la vidéo, vous le voyez, ceux qui sont en podcast, pour le coup, on vient customiser en live toutes les propriétés et c'est vrai que tout de suite c'est plus du tout la même gueule, quoi, et donc on vient vraiment améliorer et rendre totalement unique nos composants. Ouais, bah c'est celui
Claude.
De attends. Mais pour le coup, non, ça c'est super bien parce que ça peut nous faire gagner un temps de maboule et surtout, en fait, on vient néanmoins respecter le code client, l'univers graphique du client avec toutes ses contraintes. S'il veut du carré, du rond, voilà, c'est quand même super, ouais, super ouais. Sympa.
Donc, ouais, après tu peux exporter et tout, c'est vraiment pas mal. Et puis puis tu vois les exemples qu'ils donnent, enfin le site aussi est bien fait, et je sais pas si t'as vu les exemples là, t'as des trucs et ça fonctionne presque, tu vois, là t'as une inbox et tout, mais tu peux cliquer sur les trucs, c'est ouais. Génial en fait. C'est ouais. Ouf.
Et donc ouais, non, mais pour le coup ouais, non, c'est vraiment top, ça permet de rendre unique et surtout de garder notre même base de composants, quoi. Et ça, c'est ouf. C'est un super outil, hein, vraiment.
Et c'est free, il n'y a pas de connexion obligatoire, etc. Donc c'est, enfin, je veux dire, c'est fou le travail qui a été fait pour un outil qui est gratuit, quoi.
Et pour le coup, c'est même le même délire que Daisy UI, pareil, où il y a une librairie de composants et ils ont un éditeur de thèmes, pareil, où on peut venir customiser. Sauf que là, ChatCN, c'est vraiment, enfin, c'est comme une référence maintenant, on voit partout. Ouais. Et donc non, très 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 bel outil, top. Allez, on bascule dans l'écosystème WordPress avec un WordCamp qui aura lieu à Toulouse le 23 mai. Donc, vous avez encore un peu de temps. Si vous êtes dans le sud de la France, c'est peut-être le moment de partir sur des events. Toi, c'est des events sur lesquels tu as déjà donné des talks.
J'avais fait une conf, ouais, celui de Biarritz, il y a 2 ans, je crois. Voilà, et puis... alors, ils en font... En fait, un WordCamp France, il y en a à peu près tous les ans. Il y en a un tous les ans, pour l'instant. L'année dernière, c'était à Paris, je crois. Non, j'ai une connerie, c'est à Bretagne l'année dernière. Cette année, c'est à Toulouse. Donc, c'est toujours des équipes de bénévoles qui organise ça. C'est 100% bénévole. Ils ont quelques sponsors, voilà, pour payer la salle, etc. Donc, c'est plutôt intéressant. Donc, pourquoi on en parle là aujourd'hui? Alors, il reste encore des places. Je crois qu'il reste une cinquantaine de places. C'est pas hors de prix, hein. Je crois que c'est 40 balles ou un truc comme ça, le ticket.
Ouais,
alors, ça dure une journée.
Et on est très loin des confs américaines ou anglaises avec des tickets à 400, 500 balles pour la journée, quoi. Tu fais waouh.
Mais moi j'hallucine. Tu vois, c'est quoi la conf aux Pays-Bas là qui est
vite, ouais, le JS Nation ou un truc comme ça là.
Le prix, il est indécent. Moi, je comprends pas en fait le tarif, plus le voyage, le train, l'hôtel et tout, mais c'est pas possible en fait. C'est trop cher, quoi.
C'est ça.
Donc là, c'est vraiment pas très très cher. Le billet, il en reste un petit peu
accessible.
Encore, donc si ça vous intéresse, voilà, c'est accessible, c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs, hein. C'est le but de ces trucs là, c'est accessible, ça vous permet de rencontrer la communauté. C'est intéressant parce que c'est une communauté WordPress qui est assez intéressante, voilà, c'est assez bienveillant, tout ça. Voilà, si ça vous intéresse d'y aller, c'est à Toulouse en mai, c'est bientôt, dans à peu près un mois.
Allez-y, ça fait toujours, il y a toujours de la bonne énergie dans ces confs. On apprend toujours plein de choses, on fait du réseau, on passe un bon moment. C'est super, super intéressant. Allez, on rentre dans l'écosystème IA, on va dire, avec la sortie de Firebase. Alors Firebase, tout le monde connaît Firebase, qui est l'outil qui nous permet, en fait, il y a très 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 longtemps, qui nous a permis, en fait, d'avoir tout un écosystème intégré et tout, qui maintenant s'est fait racheter par Google. Et aujourd'hui, ils reviennent avec un outil qu'ils appellent Firebase Studio, qui, pour le coup, en fait, se veut un peu l'équivalent de Bold ou de V0. Donc, en clair, c'est un énorme prompt, en tout cas, un énorme chatbox, là où on va discuter, on va prompter notre applicatif et on va directement, en fait, créer notre applicatif et on va pouvoir le modifier directement depuis cet écosystème. Et vu que c'est intégré dans l'écosystème Firebase, on va pouvoir le déployer hyper facilement.
Mais oui, tu vas pouvoir faire un clone d'Instagram en quelques clics. et devenir riche.
Exactement. non, mais pour le coup, tu vois, là, on peut prendre un tout petit peu plus de distance par rapport à toute cette génération de code. Je reste intimement convaincu que quelqu'un qui ne sait pas coder, qui ne sait pas utiliser, qui a aucune notion de code, l'IA ne va pas l'aider. Donc ça c'est sûr et certain. La qualité de ton prompt est hyper importante et je pense qu'on fera un épisode là-dessus sur toutes les règles qu'il nous faut intégrer. Et aujourd'hui on utilise plutôt des fichiers par spec. Ok, pour le back-end tu vas faire ça, pour le front-end tu vas faire ça, pour le design tu vas faire ça, les codes couleurs c'est ça, pour les composants ça va être ça, et en fait on va tout expliquer dans des fichiers pour pouvoir sortir quelque chose de correct. Mais il y aura toujours de la modification, il y aura toujours du micro-debug, et c'est à ce moment-là où ton expertise de dev en fait va être super intéressante. Donc quelqu'un qui ne sait pas coder ou qui n'a aucune notion de code, ça va être très très compliqué d'aller débugger la petite feature qui fonctionne à moitié, ou voilà, il y a quelque chose qui déconne. Bah, il va être obligé de rebouffer des tokens et de reconstruire quasiment toute l'application. Donc cette box, on va dire, ce prompt box là, c'est plutôt sympa. Néanmoins, c'est hyper candide, je trouve, et c'est un peu la solution unique à tous les problèmes. Et on sait que s'il y a des marteaux et s'il y a des clous et des vis et des tournevis, c'est qu'il y a deux usages différents. Et donc, la boîte qui fait tout, j'y crois pas trop. Néanmoins, il faut pas acheter, il faut pas non plus être trop méchant. Je pense que pour des protos, pour aller hyper vite, pour initier en fait la base de l'application, ouais, je pense que ça peut être super intéressant, quoi. Super intéressant.
Ouais, j'ai bien aimé ton détournement de proverbe avec les clous. Mais clairement, ouais, de toute façon, je rejoins totalement ce que tu dis. Sans être développeur, même, je dirais même développeur expérimenté, t'arrives pas à sortir un truc valable avec ces systèmes-là. Clairement, on est très loin du truc magique, malgré ce qu'on essaie de nous vendre, etc. Enfin, je pense que ça rapporte surtout aux gens qui développent des Firebase Studio et des Bolt, etc. Eux, ça leur rapporte beaucoup d'argent. Mais de faire croire qu'en trois clics et en trois prompts, t'arrives à faire une application et à devenir riche, ça, c'est clairement non. Par expérience, j'ai déjà généré des trucs avec Bolt, etc. C'est pas utilisable en l'état, et souvent il faut faire des itérations, modifier le code, etc. Donc c'est vraiment, et puis ouais, il y a beaucoup de, enfin, le code est pas propre clairement, et il s'en mêle les pinceaux quand ça devient un peu plus complexe, etc. Donc on est très 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 loin d'un truc magique, et enfin voilà, mais on en parlera juste après parce qu'on va revenir sur une étude.
Ouais, et pour le coup je te trouve un petit peu dur non, tu vois, moi j'ai utilisé Bold pour mon client là. Ouais. Je voulais faire un ticket de caisse. Et en fait, je voulais faire un ticket de caisse en mode ticket de caisse thermique, tu vois, mais pour le web. Donc en fait, je voulais avoir un design en mode ticket de caisse thermique, tu vois.
Ouais.
Comme si ça sortait de la machine thermique, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, j'ai prompté, et le rendu, il a fait 85% du truc,
ouais,
c'était
c'est ça,
fait,
ouais.
Quoi. Mm. Tu vois, et sur la fin, j'ai juste tweaké un tout petit peu. Je suis venu variabiliser, je suis venu en fait mettre ma loupe parce que je récupère mes données. Mais franchement, c'était plutôt pas
ouais,
mal.
Mais derrière, tu vois. Alors, oui, non, mais après, derrière, t'as analysé le code, t'as vérifié que c'était OK, puis t'as complété et finalisé. Et après, je trouve qu'il, alors, il est très bon, oui, effectivement, sur du truc classique, CSS, HTML. Ils sont très bons en React et tout ça, tout ce qui est application JS. Par contre, si tu lui demandes autre chose, alors il est incapable de le faire. Et moi aussi, j'ai fait un prototype, là, il y a pas longtemps. Je voulais un système de calendrier avec des jours, machin, pour pouvoir ajouter des trucs dans les cases et tout ça. Il me l'a fait rapidement, j'ai itéré, tout ça. Ça me permet de faire un prototype, tu vois. Mais derrière, je sais pas forcément l'utiliser, tu vois, c'est juste pour montrer l'idée que j'ai. La problématique, c'est d'être développeur expérimenté, valider le truc, tout ça, mais aussi de savoir ce qu'on veut. C'est ça aussi la difficulté. Ah, mais
même le client n'arrive pas à verbaliser ça, donc de toute façon.
Voilà, si tu ne sais pas verbaliser et l'exprimer, alors là, c'est même pas la peine, quoi.
Bien sûr, mais de toute façon, on revient toujours sur la même chose. Le concept de base sur du prompt, ouais. Machin, c'est shit in, shit out. Ça, c'est clair. Mais ouais, c'est si le client qui lui-même n'est pas en capacité de verbaliser clairement son besoin, il utilise une chatbox comme ça là, c'est mort.
Il va sortir le truc de
la merde. Mais c'est pas grave. Nous, si on est un petit peu, alors sans nous passer pour des mecs plus malins que tout le monde, mais si on arrive à utiliser ça et à tirer profit, on peut construire. Moi, je dis, même si elle fait 50% de l'application, oui. Et nous, on a juste à faire les 50 autres, ben on a déjà gagné 50% de prod, quoi, de production. Et en plus, des trucs peut-être pas toujours super marrants à faire. Bah, autant
oui,
l'utiliser,
bah,
quoi.
Tu vois, sur certains trucs qui sont, qui n'ont pas vraiment de plus-value, que voilà, c'est plutôt chiant à faire, alors que ce n'est pas très compliqué, mais tu n'as pas envie de le faire. Ou des prototypes, ou des trucs comme ça, ou des POC et tout ça. Là, ouais, ça, c'est intéressant. C'est très intéressant, clairement. Ouais, pour en revenir vite fait à Firebase Studio, parce que du coup, ouais, c'était juste pour dire, bah, en fait, tu sais, ils étaient un petit peu obligés de sortir un truc dans ce style, parce que Bolt, ils sont backés avec Supabase et Netlify, normalement. Donc, c'est un peu l'écosystème où tu vas déployer ta Supabase.
Et oui.
Donc là, on retrouve un peu le même système où tu as, Firebase, le déploiement, tout ça. Donc, un peu dans, tu vois. Ah, c'est un petit peu la guéguerre à sortir tous un peu les mêmes. Ils sont tous à se suivre les uns après les autres. Vas-y, moi je fais ci. Ah bah je fais la même chose. Je rajoute un petit truc en plus. Là, c'est un petit peu la course, quoi. Mais bon. Bon, après, ça, on en profite. Hein. C'est cool, mais.
Exactement. Et vu qu'on parle d'IA, il y a le fameux report qui est devenu un peu un standard dans toutes les industries. On a le droit au Rust, au CSS, au JS, au tout ça. Et là, c'est le State of Web Dev IA en 2025.
Je pense que c'est le premier.
Ouais. Mais ça s'inscrit dans cette dans ce reporting un peu de dev IA et est-ce qu'on va pouvoir le mettre en français? Et ben non, on pourra pas le mettre en français, donc on va rester en anglais. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder en fait
la démo, c'est pour les Américains.
Démographie, c'est quand même plutôt des Américains. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est regarder l'âge, en fait. L'âge. Ouais. Et là, tu te rends compte que, tu vois, c'est pas un truc de jeunes spécialement, quoi. Tu vois, c'est de 30-40 ans qui c'est eux qui l'utilisent le plus, quoi. Donc, ce qui veut, à 30 ans, on considère que normalement, soit tu as fait ça tout de suite et donc tu n'es pas un rookie, soit tu es en reconversion, tu as déjà eu une vie professionnelle avant. Mais c'est intéressant de voir quand même que c'est...
Ouais. Après, ça, c'est les répondants. Après, c'est sûr que... Les 20-29, il aurait fallu me mettre sur TikTok pour qu'ils répondent. Mais bon, ouais. Ah, c'était gratuit, c'était facile.
Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait quel modèle est utilisé.
Ouais. Et c'est étonnant, mais enfin non, c'est pas étonnant. Mais ChatGPT est vraiment majoritaire sur les modèles utilisés. Donc en gros, ils vont sur l'interface ChatGPT pour poser les questions, quoi.
Ouais. Et je suis surpris de ça, tu vois. Je pensais que, ouais. que tu vois, sur les devs, il y avait un petit peu plus de autre chose, quoi. Tu vois, sur vraiment sur l'exécution du code, je sais pas si ChatGPT est vraiment le meilleur, quoi.
Bah non, il faut voir au niveau du... Alors ça, c'est l'expérience, hein. C'est les gens qui utilisent ChatGPT, après Claude, et Copilot, mais attends... T'es où sur les modèles, juste le sentiment. Tu peux passer sur l'onglet sentiment, au-dessus des graphes là. Ouais, voilà. Est-ce qu'on est dans le même... Ouais, c'est pareil, ça change pas des masses, quoi. C'est compliqué leur graphique là à lire un peu.
Ouais.
Je comprends tout.
Alors, voilà, je vois Perplexity. Je sais pas si toi tu utilises Perplexity
ouais, un peu,
sur,
ouais.
sur les recherches. Moi, je suis devenu de plus en plus adepte de cette recherche, ouais. mixée recherche plus LLM. Je trouve que le résultat sorti est vachement plus intéressant, vachement plus exploitable. Ouais. Et je suis devenu vraiment, vraiment fan de ça. Je n'ai pas encore ouais. poussé jusqu'au maximum, mais c'est super intéressant.
Alors, c'est marrant parce que moi, Perplexity, j'avais essayé il y a... un moment, peut-être un an et demi, et j'avais pas du tout aimé, je trouvais ça, tu vois, je préférais Google, voilà, je veux un résultat ouais. rapide. Et puis, c'est vrai que maintenant, j'utilise plus, alors comme quoi, c'est moi, peut-être moi qui ai évolué, ou c'est Perplexity qui s'est amélioré, mais maintenant, j'utilise et je trouve ça plutôt cool.
Ouais.
Et puis, t'as Copilot Search aussi qui est sorti, là, Microsoft, qui est équivalent à Perplexity, qui est, mais j'ai testé encore ce matin, et c'est un peu équivalent, et c'est pas mal. Et Perplexity, je sais pas si t'as vu aussi, il y a un système où il te suggère des news, tout ça, dans l'application.
Ouais.
C'est pas mal. Je sais pas si tu l'utilises, mais ça, c'est pas mal.
Oui. J'utilise et moi je suis gros fan de l'utilisation via tu sais où en fait tu gardes ton contexte et tu viens mettre en sauvegarde si tu veux donc ok tu crées ton dossier je sais pas tu veux faire sur un sujet particulier tu vois et bam 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 et tu mets tout et en fait tu peux tout hiérarchiser structurer sauver partager et tout super super intéressant je suis complètement fan. On revient sur notre state of IA justement. Autre point qui est intéressant, c'est de voir les IDE sur lesquels on utilise. Bizarrement,
alors,
tu vois, ouais, je m'attendais à avoir un pourcentage bien plus élevé, et au final, c'est quand même Cursor qui est largement devant, quoi.
Ouais, mais c'est tu vois, c'est un tiers. Ah ouais, mais pareil. Moi, je pensais déjà qu'il y aurait beaucoup plus d'utilisation de d'IDE avec IA. Cursor, bah forcément, c'est un des premiers entre guillemets. Si on compte pas VS Code, il est beaucoup utilisé. Et je suis étonné de Z en fait, qui soit en deuxième position, parce que moi, j'utilise personnellement Z et j'avais utilisé Windsurf, mais j'avais voilà, bon, problème de montée d'utilisation de CPU, tout ça, donc j'ai laissé tomber. Je suis passé sur Z et je pensais que Windsurf serait plutôt. Alors après, peut-être que quand je sais pas quand a été fait le sondage, mais peut-être ça date, peut-être ça a changé depuis.
Ouais. Après, attention, là c'est un IDE spécifique parce que après il y a un autre onglet qui est Code Assistant.
Ouais.
Et là, pour le coup, en fait, les codes assistants sont bien
Copilot.
Plus poussés, quoi. Et là, c'est Copilot parce que Copilot, en fait, s'intègre directement dans ton IDE, quoi. Donc, t'as pas un IDE qui est dédié. On va dire l'arrivée des IDE dédiés, type Cursor, tout ça, c'est encore assez récent. Donc
ouais,
peut-être
ouais,
que
faut payer aussi.
Oui, aussi, ouais. mais pour le coup, il y a quand même, Copilot reste quand même là.
C'était le premier.
C'est le premier, c'est la référence. Et même s'ils se sont détournés un peu, je pense que les nouvelles versions sont plutôt pas mal. On fera sans doute une vidéo là-dessus sur le chat, la génération de code et l'agent qui va vraiment venir faire les modifications. Enfin, c'est vraiment intéressant. Les nouvelles versions de Copilot
ouais.
montrent.
C'est vrai que Copilot, c'est le premier au début. Après, on s'est mis. Il marchait bien, mais après, on l'a critiqué. On est passé sur Super Maven ou des trucs comme ça. Et finalement, on est revenu à Copilot parce qu'il s'est beaucoup amélioré. En fait, il s'améliore beaucoup. Et il est bien. Pour
clairement.
Un tarif modique, $10, je crois.
Clairement. Donc, intéressant. Toujours est-il que si vous êtes intéressé pour voir toutes ces stats, allez voir le State of.
Attends, tu utilises quoi, toi?
Alors moi j'utilise Super Maven, mais je vais arrêter, je pense.
Sur VS Code.
Ouais, sur VS Code. Sur VS Code. Et je pense que je vais revenir sur Copilot. Et j'ai pour projet de tester Cursor avec justement avec les MCP, avec toutes les règles.
Les rules.
Les rules, exactement. Pour pouvoir faire un épisode dessus parce que j'ai vraiment envie de tester et pour le coup là j'ai un plus petit projet avec un client et j'aurais bien envie de tester d'utiliser ce projet là pour passer sur vraiment de la génération type curseur ou copilote avec les MCP et tout le travail. Par contre, je dois monter en compétence sur ce prompting de rules pour être vraiment efficace et vraiment spécifique, pour éviter en fait des hallucinations. Et aussi regarder la consommation de token, combien ça me coûte, la qualité du rendu, voilà. Utiliser en fait ce projet client pour aussi, une fois que j'aurai fini, en fait, faire un retour sur double slash, clairement.
Ouais, ok. Mais toi, tu as de la RAM, ça va, ton ordi, il est, oui, il est puissant.
Oui, j'ai un nouvel ordi qui est encore plus puissant. Donc,
comment ça, t'as un nouvel ordi? Tu m'as pas dit ça.
Non, je t'ai pas dit. Mais on en parlera plus tard, Patrick. On en parlera plus tard. Pas en public. Je suis pudique. Allez, on déroule. On reste toujours dans ce IA. Donc Ahref.
Ahref.
Ahref, ouais. qui est un outil de SEO qui est peut-être le plus gros outil d'SEO, je ne sais pas.
Le plus cher aussi.
Peut-être le plus cher, ouais. Après, il y a plein d'autres alternatives qui sont beaucoup moins chères, je crois. Aussi bien, je ne sais pas, je n'ai pas assez l'expertise. Toujours est-il que ça réduit les clics, c'est ça que,
en fait, qui est annoncé. Ouais, Google avait sorti les AI Overview, quand tu tapes une requête, en fait, ça va te faire générer un résultat, un peu à la Perplexity, tout ça, au début des résultats, en fait. Et Google avait dit au début, c'est ce qu'ils expliquent un peu. Alors, ils ont fait une étude à Ahref, là, pour tester tout ça. Et Google avait dit au début, ouais, non, ça va vous augmenter les clics, etc., machin, bidule. Et il s'avère que non, en fait, ça diminue de 34% les clics, en fait. Parce qu'une fois que les gens ont leur réponse, eh ben, ils se cassent, en fait.
Et ouais.
Donc, ils viennent jamais sur ton site. Donc, voilà.
Et donc, ça, c'est pas top, parce que le but de se positionner, en fait, le plus haut, c'est d'avoir du clic pour que les gens viennent sur ton site. Sauf que s'ils ont, et comme tu l'as dit, et s'ils ont verbalisé et structuré une réponse déjà toute prête dans la barre de recherche, enfin, dans la page de résultats de recherche, c'est mort. Ils iront pas plus loin.
Ah ouais, ouais. En fait, de toute façon, clairement. Le SEO, là, je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué avec Perplexity et compagnie, Google qui intègre l'IA, Copilot Search et tout ça. Et bon, on va reparler un petit peu après, mais franchement, c'est en train de changer le visage du web. Et ouais, je pense que pour les SEO, ça va devenir compliqué. Pour les sites qui vivent du SEO naturel, tout ça, et j'en connais, ça va devenir très compliqué. Enfin voilà, c'est en train de tout changer.
Est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle discipline qui va arriver? En fait, ce n'est pas le SEO, mais c'est le SIA, quoi. Tu vois, c'est optimiser ton site pour que l'IA, en fait, puisse venir scroller et que tu puisses ressortir complètement.
Et moi, j'ai déjà fait des tests parce que j'avais justement, je faisais des parce que tu sais, dans ChatGPT, tu peux faire une recherche web et puis après t'as Perplexity, tout ça. Et j'avais commencé à, enfin, je m'occupe de SEO d'un ou deux sites et j'ai fait des tests. Et déjà, il faut rajouter Bing parce que tu sais, quand t'es dans, en fait, ils disent qu'ils agrègent différents résultats de Google, de Bing, etc. Mais j'avais l'impression que c'était plutôt Bing que Google. Donc, j'avais rajouté le site dans Bing et tout ça.
Le sitemap, tu veux dire?
Tu vas t'inscrire dans Webmaster Bing pour rajouter ce que personne ne fait en France parce que 90% des résultats, c'est Google.
Ouais.
Donc, ça veut dire que ça oblige à ne plus négliger Bing, par exemple. Donc ouais, optimiser, peut-être qu'il faudra optimiser aussi pour les agents. Alors maintenant, il y a le LLM.txt, enfin voilà, il y a plein de, ouais, il faut s'intéresser, comme tu dis, ouais, il faudra peut-être devenir un spécialiste du SEO AI parce que ouais, là, c'est en train de changer complètement et ça va très vite, en fait, et c'est dans un futur très proche, et ouais, faut se tenir au courant.
C'est triste. Mais pour se tenir au courant, il y a un super podcast qui s'appelle Double Slash. On tient au courant.
Bon, on n'est pas spécialiste SEO, mais
non, on n'est pas spécialiste SEO. Mais pour le coup, Dan est venu plusieurs fois sur le site pour nous en parler et tout. Et mine de rien, il y a quand même un impact non négligeable pour nous, devs, Alors, ok, quand on fait de l'application, on s'en fout un peu. Enfin, moins si on fait des applications métiers spécifiques. Par contre, si on fait des applications ou des sites avec un impact sur le client final, on ne peut pas négliger le SEO. Et comme on le dit toujours,
ah oui, oui.
Faire le SEO a posteriori, c'est 10 fois plus de taf, quoi. Donc,
Personnellement, je fais que des sites publics et le SEO est primordial et c'est vrai que c'est quelque chose que tu dois intégrer dès le début du développement et ça fait c'est très important quoi.
Oui.
Et au-delà du contenu. Hein. Mais oui, de toute façon, ouais, c'est chaud. C'est chaud pour les sites. Enfin, moi, j'ai des clients qui ont des sites qui tournent beaucoup et qui génèrent du contenu, du revenu grâce aux clics qui viennent de Google, etc. Et là, depuis quelques années, les algorithmes de Google changent régulièrement, il y a du mouvement et ils peuvent perdre la moitié de leur visite en quelques semaines, sans raison, enfin voilà. Et là, si en plus tu rajoutes les AI Overview qui t'enlèvent des clics, ça devient vraiment très très chaud.
Ouais. Et puis si en plus à côté de ça il y a des services type Firecrawl qui nous permet d'aller scraper tous les sites internet avec des agents pour faire de la navigation et aller récupérer toutes les données, là on est mort, on s'en sort plus. Firecrawl service qui nous, c'est quoi, c'est un agent qui va
c'est un truc de crawl, en fait.
Naviguer pour nous sur les sites, quoi.
Firecrawl, c'est un truc pour crawler, donc c'est un service pour crawler des sites. Donc à la base, c'est simplement alors on s'en sert pour faire des rags, tout ça. Tu vas crawler le site, tu récupères des data, tu les transformes, etc. Tu les chunk. Donc voilà. On a fait un épisode spécial rag il y a pas longtemps. Je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas écouté. Sinon voilà, ils ont donc Firecrawl a fait la launch week la semaine dernière. Ils ont sorti des nouveaux services, etc. Donc excellent service Firecrawl avec une version gratuite qu'on peut utiliser déjà pour tester. Après version payante qui est pas hors de prix non plus. Ils ont plein d'outils, ils rajoutent des outils juste pour vite fait, mais allez voir les articles pour lire un petit peu. Mais par exemple ils ont Extract, donc il y a un outil qui permet d'extraire des éléments dans une page, tu vas spécifier quel élément tu veux récupérer et lui, il va te renvoyer un JSON, par exemple. D'ailleurs, tu vois, dans l'exemple, ils utilisent JSON, c'est marrant. Donc ça, très puissant. Donc si tu veux récupérer des infos vraiment spécifiques sur des annonces, alors Le Bon Coin, n'essayez pas parce que c'est bloqué direct, mais sur des sites qui sont
pas... Tu vas te faire ban.
Tu peux récupérer ça en JSON et après l'exploiter, etc. Donc c'est super intéressant, le crawl. Et après, ils ont aussi sorti un crawl IA qui c'est une IA qui va sur le site et qui se comporte comme un visiteur. Voilà, donc ça peut être intéressant pour Le Bon Coin, par exemple, faire style, ah, je suis pas un robot, regarde, je clique là.
Là, on est toujours sur la zone grise un peu, hein, quand ouais. Même. Hein. Là, je pense que ça va rentrer dans la guéguerre à ce genre d'usage. Mais c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'on ne sait pas si demain on sera obligé de faciliter ce boulot-là, parce que en fait, si moi je veux utiliser via mon téléphone, je vais peut-être utiliser un agent. Et donc, si cet agent ne trouve pas les informations sur le site parce que j'ai bloqué tous ces crawlers d'agents, au final, mon site n'aura plus d'utilité, parce qu'il n'y aura personne qui va venir. Et donc, ça va toujours être limite. Et t'en parlais tout à l'heure, est-ce qu'on va coder pour des agents ou pour des utilisateurs ?
Bonne question et bonne transition, parce que justement, pour finir, on a une vidéo. On a une super vidéo. Alors, c'est une chaîne sur YouTube qui s'appelle Générative IA France, je ne sais plus. C'est ça le
oui,
nom ?
Oui, Générative AI France.
Voilà, c'est donc super chaîne, il y a pas mal de vidéos, je vous encourage à aller voir, il y a plein de vidéos intéressantes sur des talks sur l'IA générative. Et j'ai pris ce talk là de LinkUp, c'est une boîte française qui est équivalent à Perplexity, donc où tu peux faire des requêtes, tout ça, il y a une API voilà. Donc c'est vraiment pas mal, c'est français. LinkUp, rien à voir avec le groupe LinkUp, je sais pas si tu te souviens du groupe non, à l'époque.
Pas du tout.
Ça a plus de 20 ans. Bon, bref, laisse
tomber. Ouais, t'es vieux.
C'était une émission à la télé, je sais plus, M6, où ils avaient fait un groupe qui s'appelait LinkUp. Ça n'avait pas marché, je crois. Okay. Bon, bref. Et donc, dans ce talk-là de LinkUp, donc cette boîte française, eux, clairement, ils sont convaincus, mais en même temps, c'est leur métier, mais ils sont convaincus que demain, on va faire des sites pour les agents et non plus pour les gens. Et Donc voilà. 100% convaincu et ils disent que ça va changer les choses. Et... Mais en même temps, c'est pas si simple parce qu'un agent, quand tu vas taper sur Google des résultats, des requêtes, tout ça, t'as pas forcément des résultats que tu veux. Donc ça, c'est pas si simple. Mais ouais. Voilà, eux, ils sont convaincus. Donc moi, je suis aussi convaincu que ouais, notre métier va changer et que oui, effectivement, de plus en plus, on aura des agents et plus des gens qui vont venir sur les sites. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vu une étude, je sais plus d'où ça vient, mais chez les jeunes justement, ils sont déjà plus de 40% à utiliser plutôt ChatGPT que Google pour faire des recherches. Donc tu vois.
Ouais. Après, ils se privent quand même de beaucoup d'informations parce que ce qui s'est passé hier, c'est pas dans ChatGPT quoi. Tu vois.
Ah oui, ça c'est clair.
Donc en fait, ça amène plein de problèmes. Mais ok. Toujours est-il que aller voir cette petite conférence qui dure 22 minutes là, qui peut être intéressant sur le sujet un peu website versus agent.
Il y en a une aussi intéressante sur les MCP, des mecs de Docker qui expliquent comment ils ont développé. Et d'ailleurs, ils recommandent quand tu fais des MCP d'utiliser Docker en local pour éviter que le MCP puisse aller taper
accéder
n'importe
où. Accéder ailleurs. Pour le coup, on en parlera quand on fera notre épisode spécial sur les MCP. Contextualiser le truc, évidemment. Cool, super. Écoute, on en reste là pour cet épisode, Patrick.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Écoutez, un grand merci à tous ceux qui sont restés au bout de l'épisode. Un petit pouce, un petit commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Ouais. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. On prend le temps d'y répondre. Et puis, on vous dit à bientôt.
À bientôt. Ciao.